c'est une autre secrétaire qui y est. Vous désirez, monsieur ?
Bonjour, mademoiselle. J'aimerais avoir des nouvelles de monsieur Henri Bouchot. Elle lui demande :
Vous êtes un membre de la famille ?
Qu'elle soupire et lui dit : Non. Ça ne va pas recommencer. Je veux voir le directeur de cet hôpital. Elle lui dit :
Vous avez rendez-vous ?
Non, je suis Galien Diap. Elle lui dit :
Ça ne me dit rien. Vous pouvez bien être Leonardo DiCaprio, cela ne changerait rien.
Je suis le président du directeur général du groupe Genetou, la biotech, les greffes, vous voyez ?
Non, pas du tout.
Si vous ne me donnez pas des nouvelles de monsieur Henri Bouchot, je fais un scandale. D'un geste, il prend le téléphone qui est sur la banque.
Mais que faites-vous ?
Je téléphone au ministre.
Vous n'avez pas le droit.
Que se passe-t-il ?
Galien se retourne, un homme grand, cheveux blancs, costume noir. Galien lui dit :
Je viens prendre des nouvelles d'un de mes patients et on me refuse de m'en donner. Alors je téléphone au ministre de la Santé.
Mais vous êtes, monsieur ?
Je suis Galien Diap, le PDG du groupe Genetou. L'homme devient tout rouge et lui dit :
Excusez-moi, monsieur. Nous ne savions pas.
Galien lui dit furieux : Je lui dis 100 fois cette personne.
L'homme dit à la femme : Idiote, vous voyez pas que c'est monsieur Galien Diap ?
La femme est toute rouge. L'homme continue :
Je suis le directeur de cet établissement, monsieur Rémi Lefort. Excusez, cette personne est tout à fait ignorante.
Il s'adresse à la femme :
Où est monsieur Henri Michou ?
Elle regarde à l'ordinateur.
Troisième étage, réanimation, sol 601.
Rémi la regarde et lui dit :
Eh bien voilà, j'ai juste ce que l'on vous demande. Veuillez me suivre, monsieur.
Galien suit l'homme. Ils prennent l'ascenseur jusqu'au troisième étage. Sort de l'ascenseur. Et vont jusqu'à la chambre 601. Puisque Lefort dit à Galien :
J'ai travaillé il y a quelques années avec votre père, monsieur.
Galien lui dit : Mon père ?
Oui, monsieur Genetou.
Galien lui dit : Ce n'est pas mon père, mais c'est un peu compliqué à expliquer.
Comme toutes les familles.
Passe une infirmière dans le couloir.
Rémi lui dit : Dites au chef de service de venir au 601.
Bien, monsieur.
Et elle s'éloigne.
Rémi va ouvrir une porte.
C'est la 601. Entrez.
Ils entrent tous les deux.
C'est une chambre d'hôpital où est couché dans un lit avec des tas de tuyaux Henri. Il s'approche du lit. Rémi dit à Henri :
Monsieur Bouchot, je vous ai amené votre ami monsieur Diap.
Galien se penche et voit qu'Henri semble avoir des difficultés pour respirer.
Bonjour Henri, je suis venu pour avoir tes nouvelles.
La porte s'est ouverte. C'est un homme à blouse blanche, chauve, qui va vers eux.
Et dit :
J'avais dit pas de visite.
Rémi lui dit :
Monsieur Perrier, bonjour. Je vous présente monsieur Galien Diap. Vous connaissez ?
Docteur Perrier hausse ses épaules et dit :
Aucune idée. J'avais dit aucune visite.
Rémi lui fait les gros yeux et lui dit :
Monsieur Diap est président directeur général du groupe Genetou.
Le Thor Poirier, comprenant que c'est une grosse légume, fait « Ah,
monsieur est venu avoir des nouvelles de ce patient. »
Le Thor Poirier leur dit « Venez dans mon bureau. » Et leur dit, je vais voir son dossier, si vous permettez. J'ai tellement de patients. Il ouvre son ordinateur. Comment s'appelle-t-il déjà ? Galien énervé lui dit, monsieur Henri Bouchot, médecin. Ah, monsieur Henri Bouchot. Bon. Hier après-midi,
on commence à faire du recrutement pour le nouveau continent. On recherche des colons, si l'on veut.
Avec un peu de diabète dû au manque de régime. Réanimation, tension. Le rendre maître d'aplomb. Le directeur est furieux et dit «
Monsieur, 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 vous allez faire quelque chose. Hein? Vous pouvez en faire quelque chose. Nous sommes tout aussi bien que l'hôpital américain. »
Le médecin lui dit « Vu son état, je ne peux pas vous dire que nous puissions faire quelque chose. » Galien soupire et dit « Alors, il est perdu ?» Le médecin lui dit « Ma foi. » Galien lui demande « Et si on lui faisait une greffe d'un autre corps ?» Le médecin lui dit « Je ne m'amuserai jamais à toucher à l'intérieur de ce corps. Il doit être dans un état. Vous pensez, c'est le genre d'homme qui n'a jamais été chez le médecin. » Galien lui dit « Parlons franc. Pour vous, il est perdu. »
« Malheureusement, oui. »
Galien dit au directeur « Cela vous gênerait si je prenais ce monsieur pour le soigner dans ma clinique ?» Le directeur tique et dit
« Sûrement que le médecin exagère. Nous allons sûrement pouvoir le mettre d'aplomb. »
Il fait de gros yeux au médecin. Le médecin dit « Nous pourrons essayer. » Galien dit « Je vous remercie. Je tiens absolument à être au courant de son état. C'est un de mes amis très chers. » Le directeur lui dit
« Oui, bien sûr. »
Galien se lève et leur dit « J'aimerais c'est pouvoir le voir avant de partir, si vous le permettez. » Le directeur lui dit «
Oui, bien sûr. »
Galien se lève, les autres aussi. S'apprête à sortir du bureau. Les deux hommes s'apprêtent à le suivre. Galien leur dit « Laissez, je peux y aller seul. » Et ils le laissent. Le directeur fait de gros yeux au médecin. Galien va à la chambre d'Henri. Il va vers lui.
Se penche et lui dit « Bonjour Henri, c'est moi. Vous me reconnaissez ?»
Henri lui dit faiblement
« Oui Galien, je te reconnais. Tu vois, je suis dans un piètre état. Quelle idée d'être comme ça. Moi, qui n'ai jamais été malade, qui ne suis jamais allé à l'hôpital. Quelle dégradation !»
Galien lui dit « Ce n'est rien. Vous avez juste un petit ennui. Mais vous allez être sur pied. »
Henri lui dit
« En attendant que je sois sur pied, asseyez-vous donc. Vous fatiguez. » à vous voir debout, comme ça.
Galia va prendre une chaise et va s'asseoir près du lit.
Henri lui dit, il ne faut pas me dire de mensonges. Je sais que je vais mal. Lorsqu'une personne comme moi est au lit, c'est que c'est la fin.
Galien lui dit, mais...
Henri lui dit, je sais ce que je dis. Je suis le genre de personne qui tombe une fois et ne se relève pas. Oh, cela ne m'ennuie pas. J'ai vécu suffisamment. Mais je vais vous demander une chose. J'aimerais c'est mourir chez moi, dans mon lit, sans tous ces appareils. Mourir comme un homme tranquillement. Il faut me jurer de ne pas me prolonger la vie, de ne pas me faire d'opération, de greffe ou d'histoire d'ADN. Je veux mourir librement. Jurez-le-moi.
Galien, les larmes aux yeux, lui dit,
je vous le jure, personne ne vous touchera. Merci, mon ami. Encore une chose, mon ami. Je veux être enterré à la campagne, dans un beau paysage, et que l'on mette seulement sur ma tombe. Ici repose un homme libre, qu'on ne le dérange pas. Surtout que l'on ne vienne pas me prendre mon ADN ou autre.
Galien lui dit, je vous le jure. Henri lui dit,
merci. Maintenant, je peux mourir tranquille.
On a frappé à la porte. La porte est ouverte. C'est une infirmière qui dit à Galien,
les visites sont terminées, monsieur.
Bien, je m'en vais. Il dit à Henri, reposez-vous, je m'occupe de tout. Il se lève. Et il sort de la chambre. Il demande à l'infirmière, j'aimerais parler au directeur. Elle lui dit,
suivez-moi, monsieur, je vais vous mener.
Et il la suit. Ils descendent au premier étage. Longe un long couloir. Elle frappe à une porte.
Entrez.
Elle entre. Et en ressort.
Monsieur le directeur veut bien vous recevoir.
Il entre. Grand bureau, moderne, clair. Le directeur se lève.
Que puis-je pour vous, monsieur?
Galien s'approche.
Et lui dit, monsieur, monsieur Henri Bouchot aimerait mourir en paix, sans tous ces appareils ni opérations.
Le professeur lui dit, notre rôle est de maintenir en vie.
Galien lui dit, oui, je comprends. Il ne demande pas la mort, mais il veut qu'on ne le laisse pas, qu'on ne force pas à vivre si le corps n'en peut plus. Il ne veut pas d'une vie maintenue artificiellement, c'est-à-dire pas d'opération, rien. Qu'on le laisse en paix. Si le corps n'en peut plus, il n'en peut plus. Voilà.
Le médecin lui dit,
bien, ramenez-le chez lui, puisqu'il n'y a rien à faire ici.
Galien lui dit, dans l'état où il est, il risquerait, c'est de beaucoup souffrir et de se fatiguer, d'avoir des douleurs inutiles.
Laissez-le ici, tranquillement. Donnez-lui des calmants.
Le docteur lui dit,
ma foi, puisque vous le voulez, mais il me faut signer un papier de décharge de lui et de sa famille. Vous êtes de sa famille?
Galien lui dit, non, malheureusement.
Lecteur lui dit, vous ne pouvez pas être son exécuteur testamentaire. A-t-il fait un testament?
Non.
Eh bien, malheureusement, on ne peut rien faire. Légalement, il faut que je fasse tout ce qu'il faut pour le soigner. Vous comprenez, l'on risquerait, c'est de me traiter d'euthanasie.
Galien lui dit, et si le patient vous écrit une lettre?
Le directeur lui dit, il faut des témoins et aussi la signature de la famille.
Galien lui dit, je peux être à la rigueur son témoin?
Le directeur lui dit, il vous reste plus que la famille.
Bien, je vais le leur dire.
Le directeur lui dit, venez vite avec la famille, le plus vite possible, car son état risque de se dégrader très vite. Et si nous n'avons pas les papiers, nous serons obligés, c'est de l'opérer, pour lui mettre une pile au corps ou une greffe.
Galien lui dit, mon Dieu, je vais faire le plus vite possible.
Et il sort du bureau. Chez lui, il se demande comment il va faire pour raconter tout ça à Danfort. Il va dans sa chambre, se déshabiller pour se coucher. Et se couche. On frappe à la porte. Elle s'ouvre. C'est Guillaume qui est entré. Il est en pyjama, s'avance près du lit. Et se couche.
J'ai envie de jeudi, Gaïen lui dit. Toi alors? Il se met sur lui, lui couvre de baisers. Guillaume écarte les jambes pour serrer le corps de Galien entre ses jambes. Guillaume lui dit, tu es mon petit Leonardo DiCaprio. Galien lui dit,
en mieux, mes cheveux sont plus blonds que les siens et mes yeux plus profonds. Et puis, je ne veux pas que tu fasses amour avec moi par procuration. Je suis Galien.
Guillaume sourit et lui dit, je le sais. Et lui mord l'oreille. Laissons-les à leur jeu de lit.
Le lendemain matin, Gallien convoque Danfort à son bureau, prend le téléphone et dit à sa secrétaire « Dites à M. Danfort de venir me voir. Merci. » Un quart d'heure plus tard, on frappe à la porte du bureau de Gallien. Gallien voit sur l'écran de contrôle que c'est Danfort. Entrez Danfort. Il appuie sur le bouton qui libère la porte et Danfort entre.
Veuillez demander, monsieur.
Oui, venez vous asseoir. Gallien lui demande « Vous allez bien, Danfort ?»«
Oui, monsieur. »
« Et votre femme ?»«
Aussi, monsieur. »«
Bien. En fait, j'ai une mauvaise nouvelle à vous dire. Votre beau-père, monsieur Henri Bouchot, a eu un accident cardiaque. Il est à l'hôpital. » Danfort rougit.
« Je vous remercie de me prévenir, monsieur. Les pompiers ont dit où il était hospitalisé. »
Gallien lui dit « Il est à l'hôpital de son quartier, l'hôpital du Faubourg Saint-Jacques. »
« Je vous remercie, monsieur. »
Gallien lui dit « Je dois vous dire une chose, c'est que ce ne sont pas les pompiers qui m'ont informé de cette mauvaise nouvelle. Je connais votre beau-père. »
Danfort devient tout rouge.
Gallien lui dit « C'est un homme très gentil et admirable. Ils ont passé de merveilleuses soirées ensemble. Inoubliables. » Danfort fait
« Ah !»
Gallien continue « Oui, je l'ai connu par hasard. Et un soir, en me promenant, nous avons été boire un verre et sympathiser. Un grand poète, psychologue. J'ai appris dans la conversation qu'il était votre beau-père. Et pour pas vous gêner, je vous en ai pas parlé. Vous ne vous fréquentiez pas, je crois. »
Danfort lui dit « Non, et ma femme ne l'aimait pas beaucoup. Il était un peu trop excentrique, à notre goût. »
Il baisse la tête. Gallien lui dit « Je comprends. Il a besoin de vous, maintenant. »
Danfort lui dit « J'ai besoin d'argent. Je peux le lui envoyer. »
Gallien lui dit « Ce n'est pas tout à fait ça. C'est au sujet de ses dernières volontés. »
Danfort lui dit « Il peut léguer le peu qu'il a aux pauvres de son quartier s'il le désire. Mais est-il si malade ?»
Gallien lui répond « Oui, le corps est très usé et les médecins pensent qu'ils ne peuvent rien faire. Je suis navré. »
Danfort lui dit « Oui, il va falloir que j'en parle à ma femme. Enfin, il a vécu comme il a voulu. Souhaitons qu'il ne souffre pas trop. »
Gallien lui dit « Non, le médecin y pourvoira, mais ses dernières volontés ne sont pas d'ordre de bien. De toute façon, s'il y a quelque chose, j'y pourvoirai. Et s'il faut, aux frais d'enterrement. »
Danfort lui dit, froissé. « J'ai ce qu'il me faut, monsieur. Merci. »
Gallien lui dit « Oui. » Il a demandé à être enterré à la campagne, loin de Paris, et sur sa plaque timbrale, simplement. « Ici repose un homme libre et qui ne veut pas être dérangé. »
Danfort lui dit « Nous ferons tout ça à la lettre. Ce n'est pas difficile de trouver un petit cimetière et d'acheter une place. Nous marquerons aussi ce qu'il désire.
C'est la seule chose qu'il souhaite ?» Gallien lui répond « Non, et c'est le plus difficile. Je m'excuse auprès de vous et de votre femme. »
Danfort lui dit « Il a inventé quoi ? »
Gaïen lui dit. Rien de vraiment... Enfin, il veut mourir dignement. L'enfant lui dit.
Il aura un bon enterrement.
Gaïen lui dit. Ce n'est pas que cela, c'est-à-dire qu'il veut qu'on le laisse mourir en paix, que l'on ne prolonge pas ses souffrances pour rien. Il ne veut pas de traitement, de choc, d'opération, de choses pour qu'on retarde sa fin. Il veut qu'on le laisse mourir dignement comme un homme. L'enfant lui dit,
s'il le désire vraiment.
Gaïen lui dit aussi, après sa mort, il refuse qu'on lui prenne quoi que ce soit, même pas son ADN. L'enfant lui dit,
bien, que devons-nous faire?
Gaïen lui dit, il faut aller à l'hôpital avec votre femme et signer des papiers de décharge. Je viendrai avec vous. L'enfant lui dit,
bien, je vous remercie. Nous irons dans 3 jours.
Gaïen lui dit, surtout pas, vous deviez y aller tout de suite. L'enfant soupire,
bien, nous irons. Je préviendrai ma femme et nous y allons.
Gaïen lui dit, je vais avec vous. Venez me chercher, nous partirons ensemble.
Bien, monsieur.
Et Danfort sort du bureau furieux.
Dehors, il entre dans sa voiture et dit à son chauffeur.
À la maison.
Bien, monsieur. Fort habite un grand appartement dans un immeuble cossu du 19e avenue de l'Opéra. La voiture s'est arrêtée devant l'immeuble. Le chauffeur sort de voiture pour lui ouvrir la porte. Il sort de voiture.
Et il entre dans l'immeuble.
Grande allée de marbre avec lustre en cristal, escalier et rampe en marbre, glace. Il va prendre l'ascenseur.
Vieil ascenseur avec porte en fer forgé. Monte jusqu'au 5e étage. C'est le dernier. Tout l'étage est à lui. Il a sur le toit une terrasse et une piscine. Il sort de l'ascenseur. Sonne à la porte de son appartement. La porte s'est ouverte. C'est la femme de chambre, dans les 40 ans, cheveux gris.
Monsieur est déjà là?
Oui, madame est là.
Elle s'apprête à partir. Elle est dans sa chambre.
Bien. J'y vais. Je peux ?
Oui, monsieur.
Il va à la chambre de sa femme. L'appartement est immense. Meublé et décoré Louis XV. Du vrai, du dur, du beau. Les murs sont clairs, beige, clair, rosé, crème. Le plancher est à la française. Il frappe à la porte de la chambre de sa femme.
Entrez !
Il entre.
Sa femme étant déshabillée en soie blanche, à sa coiffeuse, en train de se choisir des bijoux. C'est une femme grande, mince, cheveux blondes, cheveux frisés, dans les 40 ans. Elle se retourne, le voit et lui dit
« Oh, c'est toi ! Déjà ! Comme le temps passe ! Justement, je ne sais pas quoi mettre pour aller au Galeries Lafayette avec Martine. Mais il est quelle heure déjà ?»
Son mari lui dit.
Il est 11 heures,
elle lui dit.
Mon Dieu, comme le temps passe, et j'ai rendez-vous à 11h30 avec elle. Je ne serai jamais prête. J'ai à me maquiller, mon tailleur rouge à me mettre, et je ne sais toujours pas quel bijou je peux mettre. Pourtant, je me suis levée tôt, à 10h. Aide-moi, je t'en supplie. Qu'est-ce que tu penses de ce collier ? Il n'est pas trop voyant pour le magasin. Est-ce que ça peut aller avec mon tailleur rouge ?
Son mari lui dit
« Je suis navré de te le dire, mais tu ne peux pas mettre de tailleur rouge. »
Elle le regarde effaré.
« Et pourquoi ?»«
Parce que tu es en deuil, ou presque. »
Elle hausse ses épaules.
« Je ne vois pas de qui. »
« De ton père, voyons. »
Elle lui dit
« Mon père, il ne ferait pas cette bêtise. »
« Oui, ma chère. »
Elle lui demande
« Et d'où sors-tu cette nouvelle ?»
Il lui dit
« Tu ne devineras jamais. »
Elle lui dit
« Bien sûr, des pompiers !»
Il lui dit
« Non, de mon patron, oui, de Dieppe, tu te rends compte ?»
Elle lui dit
« Oui, ce n'est pas grave, les pompiers sont venus prévenir ton employeur. »
Il lui dit
« Non, c'est autre chose, et de tout à fait désagréable, tu ne devineras jamais. Monsieur Dieppe connaissait ton père et ils étaient amis, et passaient les soirées ensemble à parler poésie. »
« Mon Dieu, tu en es sûr ? Je n'oserais jamais me présenter à lui. Il connaît mes origines. Quelle horreur ! Il sait comment est mon père. »
D'Enfort lui dit
« Oui, mais calme-toi. Dieppe est simple et un peu adolescent. Le vieux a dû te séduire avec toutes ses paroles. Ce n'est pas grave. De toute façon, la chose est faite. Maintenant, ton père est mourant. Il a eu une crise cardiaque. Il faut s'occuper de lui. »
Elle lui dit
« Bien entendu, nous lui ferons un enterrement correct, dans l'intimité, comme il aimait cette... Mais correct. Nous lui trouverons bien une place dans son cimetière, au milieu des gens simples, comme il aimait. »
L'enfant lui dit
« Malheureusement, c'est pas tout à fait ça. »
Elle lui dit « Ah, il veut les premières classes, c'est tout. Eh bien, pourquoi pas ?»
L'enfant lui dit
« Il veut être enterré à la campagne dans un endroit calme. Mais pour le moment, il n'est pas encore mort. »
« Oh, mon Dieu, bien sûr, mon pauvre papa !»
L'enfant lui dit
« Je vous en prie, n'en faites pas trop. Ne faites pas la veuve et pleurer. Vous ne vous êtes jamais occupé de lui. »
« C'est ça, vous allez me traiter d'égoïste. Mais si je ne me suis jamais occupé de mon père, c'était pour vous, pour votre carrière. Oui, je me suis sacrifié pour vous et votre carrière. « J'ai abandonné mon pauvre père pour vous !»
D'Enfort, agacé, lui dit
« Je vous en prie, je ne vous ai jamais demandé de ne plus voir votre père. Et puis, nous n'en sommes plus là. Il faut aller à l'hôpital et signer des papiers. Ton père refuse de se faire soigner comme il se doit. »
Elle fait « Oh, mon Dieu !»
D'Enfort lui dit
« Ce vieil anard va encore nous créer des ennuis. Il est contre tout. Tout, bien entendu, et contre la médecine. Je plains le personnel de l'hôpital. Anard, écolo, gauchiste. »
Elle lui dit
« Tu ne vas tout de même pas insulter ma famille. C'est mon père. »
Il lui dit
« Lui, qui n'a jamais voulu avoir une situation correcte. On aurait pu le nommer à Henri IV. Il n'a jamais voulu, parce que trop chic, monsieur aime mieux les gens simples, le petit peuple. On aurait dû l'envoyer dans une banlieue.
Oh mon Dieu, mon pauvre père dans une banlieue, il se serait fait tuer.
Il lui dit, où il aurait été chef de bande, il aurait vendu de la drogue dans sa classe pour être près du peuple, et il aurait parlé arabe et chanté du rap.
Elle lui dit, mais que dis-tu là? C'est une horreur, lui si doux.
Il lui dit, pour être doux, mais les gens doux, comme ton père, créent des ennuis. Il va sûrement nous faire signer de ses papiers pour se faire euthanasier. Il trouve que c'est plus humain que de se mettre une pile, que se faire mettre une pile. À cause de lui, nous risquons d'être à la paille. Je ne sais pas ce que Diap manigance contre moi. Il a dû bien rire en apprenant que ton père était ce vieux clodo de la rue Saint-Jacques.
Elle lui dit, « Père n'était pas un clodo, il était à la retraite. »
L'enfant lui dit, « C'est tout comme, si au moins il était gauchiste, philosophe comme Lévy. Là au moins, c'est correct, on peut le présenter à n'importe qui. Il ne fait pas honte, mais lui. »
Elle lui dit, « Je t'en prie, attends, on croirait que mon père urine dans tous les coins. »
L'enfant lui dit, « Si c'était que ça. »
Elle lui dit, « Je comprends ta colère, mais tout de même, toi et ta famille, tante Hélène. »
L'enfant lui dit, « c'était pas la même chose. Bon, habille-toi. Mon président nous attend pour nous humilier encore plus. Il vient avec nous. »
Elle lui demande, « Je m'habille avec mon tailleur noir, alors. »
« Non, il n'est pas tout à fait mort. Le gris fera très bien et montrera l'état où il est, entre les deux. »
Une fois qu'elle est habillée avec son tailleur gris moucheté, chaussures noires, sac en cuir noir, ils ont pris la voiture jusqu'au siège de Galien, c'est-à-dire Genetou, pour prendre Galien. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.